19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beur FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beur FM, 19h pétante. Et oui, votre quotidien sportif Time Sport, du lundi au vendredi, on le rappelle pour toutes les auditrices et les auditeurs de Beur FM. Au menu de cette émission, en ce mercredi 17 mars 2021, le Real récupère Sergio Ramos et passe un tour de Ligue des Champions. On recevra pour la première fois sur cette antenne l'illustre Servan Ödyar avec son livre, magnifique livre aux éditions Gold, Le Sport, Ma Prison sans Barreau. On parle aura aussi encore ce soir de cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Et oui, la Champions League, l'Atlético, les Colchoneros de Madrid, doivent-ils se concentrer sur le championnat qui est à la Liga. Manchester City, et oui, les hommes de Pep Guardiola, une équipe plus impressionnante que celle de cette Ligue des Champions. Paris peut-il jouer peut-être à 100% sur tous les tableaux, tout comme ces Anglais. On parlera aussi de NBA, c'est promis, avec notre équipe de Time Sport, Utah, encore les plus forts, mais toujours pas respectés dans ce championnat nord-américain. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000, et aussi sur la Twittosphère, on a Farid, on a toute l'équipe, les petites mains de toute la rédaction de Beur FM, et sans oublier votre émission Sport qui est Time Sport, qui sont là à vous balancer toute l'info sport de la journée. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et avec nous ce soir, on aura Valentin. Comment ça va, Valentin?
Au top, en pleine forme, et toujours un plaisir d'être là en ce mercredi soir. Là, il fait un peu plus jour à 19h.
Ça arrive,
là.
Ça arrive, Valentin.
C'est un peu mieux.
Ouais, c'est un peu mieux. Ah ben, on l'espère en tout cas. Un petit clin d'œil au papa, voilà. Valentin. Et un joyeux anniversaire à toi aussi, Valentin.
Merci, merci, ça fait plaisir.
Ouais, voilà. Le coach Tollé, juste en face. On est tranquille là. Il y a que Valentin. On attendait Valentin, Yacine Bouali. On sait pas où il est. Il s'est perdu, lui. Il est où? Du côté de Sarajevo ou Göteborg encore? Le coach Tollé.
Il est en train de préparer à manger.
Ah, il prépare à manger. Il prépare quoi? Shashuka ou?
Il fait des œufs en morette.
Ah, bah, c'est pas mal.
C'est un plat bourguignon.
Ah, bah, ça, c'est pas mal.
Eh oui.
Ouais. Et ce soir, on aura quoi peut-être? Le coach Tollé.
Me concernant? Des lentilles. Des lentilles.
Ça passe toujours.
Ouais.
Allez, le petit clin d'œil aussi. La réalisation, la personne de Yanis, toujours là. Eh ben Yanis, il est assez heureux. Eh oui, le Real Madrid a remporté justement son match. Allez, on va s'attarder justement sur cette équipe et les hommes de Zinedine Zidane.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, pour certains, oui, mais non. Elle est là, cette équipe du Real Madrid. La réaction, eh oui, elle a été géniale aussi d'un certain Sergio Ramos. Avec cette folle chevauchée aussi de Vinicius, que dire. En tout cas, Benzema était là.
Il était là et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le collectif du Real Madrid qui est complètement différent en Ligue des Champions par rapport à la phase de groupe et par rapport aussi au match aller contre l'Atalanta. Là, je les trouve beaucoup plus, offensivement, ils tentent beaucoup plus de choses. Et puis, un Modric aussi, on n'en parle pas beaucoup. On parle de Benzema, on parle de Ramos.
Ah ouais.
Mais Modric, pour moi.
Modric, Kroos aussi.
Ouais, Kroos
ouais,
aussi.
Il était pas mal.
Kroos qui est l'homme clé du Real Madrid dans l'entrejeu. Et Modric, qui part de loin, pour après distribuer les ballons. Il a fait que ça, en fait, hier soir. Et c'était impressionnant. Donc, Modric, je lui mettrais homme du match. Après, c'est subjectif, hein. C'est mon avis à moi. Et, voilà. Superbe opération du Real Madrid collectivement et c'est de bon augure pour la suite. Après, je les mets pas forcément dans les favoris, mais c'est positif de leur part.
Ouais, c'est intéressant ce que dit Valentin. Oh, ouais. Ça te laisse un peu dubitatif peut-être, non?
Non, ce qui est intéressant, c'est
le coach.
C'est de voir comme la capacité de cette équipe du Real Madrid. Qu'on dise à la cave, c'est vrai que
peut-être se galvaniser, se transcender aussi.
T'as pas mal de joueurs qui sont en fin de carrière.
Oui, c'est vrai.
Modric, Kroos et d'autres, et qui ont cette capacité quand même d'hausser leur niveau de jeu encore à ce stade de la compétition. Et je pense que tu dois avoir quand même une certaine gestion de la part de Zidane et de son staff pour permettre à ces joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes à ce stade-là. Et c'est vrai que tu parlais de Modric, hein, qui a été un ballon d'or, on va dire un peu en demi-teinte.
Controversé, ouais.
2018, qu'on pense un petit peu à la cave. Il arrive, il est plus tout jeune non plus. C'est des gars qui ont quand même une telle intelligence, qu'ils ont cette capacité, dans les matchs, décisifs, à être présent, et ils l'ont montré hier.
Mais donc, ça montre à quel
point.
Je te coupe, excuse-moi.
Non, tu peux me couper.
Mais ça montre à quel point, fallait être patient avec Zidane. Parce que depuis le début de la saison, je disais,
certains le faisaient, hein.
Et puis à chaque fois, on a fait des émissions sur ça, on disait, est-ce que Zizou, mérite de rester? Bien évidemment, je pense que, en majorité, on disait que, que Zidane devait continuer avec tout ce qu'il a gagné, par respect aussi et sur le fait qu'il est efficace, que c'est un grand coach. Mais là, il l'a montré parce que tu parlais aussi des anciens, entre guillemets. Et en général, c'est dur aussi, quand des anciens ont autant gagné, de faire une transition avec les jeunes. Là, il y a des nouvelles têtes. On a vu à Hazard, c'est compliqué, qui se blesse tout le temps. Il y a Jovic qui est parti à Francfort. Donc il y a des points négatifs.
C'est pas
mais
trop
quelque
ça,
part,
ça.
On voit que la transition se fait lentement. Les anciens sont toujours répondent toujours présents. Donc pour l'instant, c'est bien. En plus, s'ils ont ce niveau de jeu en mars, parce que c'est là où il faut être bon, c'est dans ces moments-là. Surtout au championnat, je vois que l'écart s'est réduit avec l'Atlético. Et donc finalement. Il reste quand même 10 ou 11 journées. Bon là, je parle du championnat, on parlait de la Ligue des Champions. Mais la saison n'est pas terminée pour le Real et ils ont encore beaucoup de choses à jouer.
Le coach Tolet, justement, on a pas mal de choses. Il y a des matchs encore avec que ce soit les coupes européennes. Valentin le disait si bien. On a du temps ce soir, justement, le cas de Eden Hazard. Eh oui, Eden Hazard, quand même, c'est. Je vais pas dire que c'est le flop madrilène, mais quand même, on s'attendait à mieux. C'est la part de l'international belge.
C'est une déception numériquement. Ouais. Il est arrivé quand même pour remplacer Cristiano Ronaldo, même si on va pas les comparer. Ça reste des joueurs.
On va arriver peut-être au retour probable de CR7.
Au profil différent, ça je sais pas.
Ouais.
Mais non, ça reste une déception parce que Hazard, quand il arrive, c'est pour franchir pour moi la dernière marche et de faire partie vraiment des tout meilleurs joueurs au monde. Et malheureusement, je pense que déjà il arrive blessé. Il a jamais vraiment trouvé ce rythme de croisière, cette exigence aussi qu'on demande lorsque t'es dans un grand club comme le Real Madrid. Donc malheureusement, Bilal, j'ai bien peur que ça tourne au flop si ça reste comme ça.
Ouais, moi je pense que, enfin, j'ai pas envie d'être méchant avec Eden Hazard, mais après faut être réaliste.
Non, on est sympa.
On avait entendu dire que voilà, Hazard en venant au Real, il avait pas pleinement pris conscience de l'institution du Real Madrid. C'est qu'à Chelsea, il était performant, c'était l'homme fort de ce club. Et au Real Madrid, c'est notre paire de manches, c'est complètement différent. Donc je pense qu'il faut être top physiquement, il faut au niveau de l'hygiène de vie, faut être là, faut vraiment être bon, quoi.
Ouais.
Donc avec le Real Madrid, ça paye cash, comme avec le Barça, comme avec le Bayern Munich. Donc il en a payé les frais. Enfin, c'est pas terminé, mais ce que je veux dire, c'est que quand il se blesse une fois par semaine, c'est compliqué d'entrevoir un avenir.
Bien sûr. Une part de vérité, peut-être, le disait Zinedine Zidane, en retour d'un certain CR7 dans la capitale espagnole. Oui, on pense quoi, le coach Tolet?
Je me pose vraiment la question.
Ça ferait du bien.
Tu ne peux pas refuser CR7 pour tout ce qu'il a fait. Et puis, c'est un joueur assez exceptionnel qui a marqué le football moderne avec Lionel Messi. Maintenant, est-ce que c'est la solution à 36 ans pour ce Real Madrid de faire revenir Cristiano Ronaldo? Ça, faut poser la question au président. Hein.
Ouais.
Je pense qu'il y a quand même un besoin de renouveler pour le Real Madrid. Maintenant, il tente depuis 3-4 saisons, mais force de constater que les joueurs qui sont dans ce groupe, ben, ont du mal à franchir le cap, à s'introduire, à s'acclimater.
Peut-être.
Donc bon, voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne chose.
Ouais. De le faire revenir.
Mais je n'y crois pas, moi, ouais. Instant.
Moi j'y crois pas.
Moi, j'y crois
alors,
pas et je pense que c'est une bonne chose.
Valentin, et pourquoi?
Bah, Ronaldo, il a l'habitude de nous montrer à chaque fois qu'il est au niveau malgré son âge. Et ça, on pourrait se dire, bah, s'il va au Real, il va quand même prouver. Mais je pense que pour le projet du Real et pour son projet à lui, c'est pas cohérent. Il a quitté le Real Madrid avec 3 Ligues des Champions consécutives, avec des performances individuelles exceptionnelles. Et je pense qu'il faut tourner la page. Et pour le Real Madrid aussi, avec le contexte économique, le Barça est encore plus en difficulté de ce point de vue-là. Mais le Real Madrid fait un peu plus attention. Ils ont pas recruté l'été dernier. Et je pense qu'en termes de masse salariale, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied.
Ah oui, selon toi.
Ouais, je pense que c'est compliqué d'accueillir Ronaldo dans ce point de vue-là. Ouais.
Plus personne ne peut l'accueillir.
Si,
Ronaldo, mais... qui? Le Paris Saint-Germain, Manchester City.
Moi, je vois surtout.
Ou peut-être après la MLS.
Je vois à la limite, voilà, rester peut-être une saison supplémentaire.
À la Juve.
À la Juve. Et puis, je vois moi partir aux États-Unis ensuite. Mm.
Parce que ouais, la Juve s'est beaucoup plaint du salaire de Ronaldo, et ce qui est légitime parce que comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au contexte. Et aussi, même si Ronaldo est performant sur le terrain à chaque match, je pense que la Juve, ils veulent construire un collectif cohérent. Alors je dis pas que Ronaldo il est pas que c'est un défaut pour ce collectif, je dis pas du tout ça, mais quelque part je pense que voir Ronaldo partir de la Juve, ça serait pas mauvais pour eux, mais quelque part enfin j'ai du mal à l'imaginer dans, enfin je sais pas. En fait, j'arrive pas à me poser la question de où il pourrait atterrir.
Ouais. Donc c'est difficile pour
la
star.
Ouais. Il coûte cher.
Et en plus, il lui reste quelques années.
Il rentabilise bien aussi.
Il rentabilise bien, il coûte cher. Donc, est-ce que tu, il y a la question, Valentin l'a orienté dans ce sens. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un joueur de 36 ans? Alors oui, on a Ibra et d'autres qui sont capables de jouer.
Sélectionné même en Suède.
Mais il y a une réalité nationale. Oui, mais ça reste quand même un risque. Qu'est-ce qu'on fait de Cristiano? Est-ce que, alors c'est possible, hein, tu peux avoir un club qui a envie là de gagner la Ligue des Champions, dernier gros challenge, tu le fais signer 2 ans, c'est possible. Et puis je pense qu'avec son hygiène de vie, il est encore capable, mais je pense que ça pèse lourd dans les finances, surtout dans le contexte actuel, et c'est ce qui freine à mon avis pas mal de clubs. Donc moi je vois plutôt rester encore une saison à la Juve, et j'ai entendu dire ce matin que on voudrait récupérer l'attaquant polonais de Marseille pour l'aligner avec Cristiano Ronaldo.
Ouais, carrément.
Ouais, carrément.
Ouais, c'est beau, là.
C'est le D-Sport qui a dit ça.
Ouais.
Ça doit être un média.
Ouais. Vous voyez, critique les médias, quand même. Les confrères. Faut pas les critiquer, Valentin.
Non, mais il y en a certains. Enfin, chacun ses sources, mais il y en a certains.
Voilà. Et Cristiano Ronaldo, quand même, ça fait bondir en termes de chiffres, le coach Tolé. Si on parle maintenant football business, il fait carrément doubler les contrats, on le rappelle, hein. La multinationale Adidas ou encore même de Jeep aussi.
Bien sûr.
La marque d'automobile, quoi.
C'est une entreprise.
Ouais.
Tu sais que quand tu le fais venir, vente de maillots, marketing, etc., bah, bien sûr que
t'es. Ça le fait, quoi.
Bien sûr que t'es gagnant et puis surtout, il reste performant.
Zidane Amoré, peut-être, pour suivre.
Le dilemme, il est là.
Non, si CR7 revient, là, non.
Non, je j'y crois pas.
Il
y
croit pas.
Je pense que le Real Madrid a besoin là de repartir sur autre chose, de renouveler. Et dans des clubs comme le Real Madrid, le Bayern de Munich, quand tu prends des mecs, c'est pour qu'ils restent, bah, comme l'a fait Benzema.
Ouais. Là, si c'est pour un an ou deux. Et puis la Juve, ils ont cherché Ronaldo pour gagner cette Ligue des Champions parce que c'est un peu un club, c'est un grand club, mais qui a un peu du mal à gagner ses finales de Ligue des Champions, même gagner en finale de Ligue des Champions. Et donc, là, sur 3 années consécutives, depuis que Ronaldo est là, je crois qu'ils se sont arrêtés en 8e à chaque fois, si je me trompe pas.
Ils sont arrêtés en 8e, mais je suis pas sûr que la Juve soit meilleure que celle que l'on a connue il y a quelques saisons où t'avais Pogba, où t'avais Pirlo.
Tevez aussi, non, à un moment aussi.
Tevez, où t'avais Arturo Vidal.
Marquinho.
Là, le milieu de terrain n'est pas le même. Enfin, je veux dire, il y a de la qualité, mais l'impact n'est clairement pas le même. Il est assez irrégulier. Et il a besoin, comme tout grand joueur aussi, d'être bien entouré, parce que en termes de stats, il est.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt, en vrai.
On ne peut pas lui reprocher cela.
Ouais. C'était une époque lointaine, on le dit. Oui, c'est ça. Et Myriam aussi le disait, c'était une belle époque.
Donc,
on va s'attarder. Ce qu'on est en train de parler, que ce soit la Juve, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid avec CR7, et voilà quoi.
Passe vite.
Ouais, ça passe vite. Les saisons passent vite, les années aussi. On va s'attarder sur le championnat nord-américain. Allez.
Time Sport.
Ouais, voilà, parce qu'on me dit, il y a pas mal d'auditeurs qui aimeraient aussi entendre Valentin s'exprimer sur le championnat qu'est la NBA. Justement, on en parle des fois un peu trop rapidement, et Mourad nous le disait la dernière fois. Mais non, Utah justement encore plus fort, mais aussi, quelquefois là aussi, ils sont pas respectés, que ça soit dans le jeu, que ça soit avec les Poolmakers, que ça soit aussi même dans les relations, on le voit sur certains médias nord-américains, et pourquoi donc?
Ils sont pas respectés. Déjà, si on parle de ça, c'est parce que au All-Star Game, quand LeBron James doit faire un choix avec Kevin Durant pour composer son équipe, ils prennent beaucoup de joueurs et il reste plus que 2 joueurs à choisir. Et c'est les 2 joueurs phares de d'Utah Jazz, donc Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Et donc, du coup, LeBron James a justifié ça. Ouais, quand j'étais petit, moi, quand je jouais aux jeux vidéo de basket, je choisissais jamais les joueurs du Utah Jazz parce que c'est pas une franchise qui a vraiment la cote, qui brille pas forcément. C'est pas une franchise de stars d'habitude. Et là, cette saison, ils prouvent un peu le contraire parce qu'en NBA, ça va très très vite. L'année dernière, c'était pas du tout la même chose. Utah Jazz s'était qualifié pour les playoffs, mais était pas premier de leur conférence. Là, ils sont très très performants. Ouais. Et c'est tout à leur honneur. Après, j'en avais parlé du Utah Jazz il y a quelques semaines. Ils avaient enchaîné 16 ou 17 victoires consécutives.
Ah ouais.
Là, ils étaient un peu plus en dents de scie, mais ils réussissent quand même à être premiers. Là, 29 victoires et 10 défaites, donc c'est à peu près 75% de matchs remportés devant les Suns, qui est une surprise cette saison aussi. Donc voilà, Utah Jazz. Il y a, comme tu l'as dit, il y a une différence entre ce qu'ils font sur le parquet et comment on les traite médiatiquement aux États-Unis, mais comme dans le monde.
Yannick nous dit que la légende du jazz, Malone, qui a fait polémique pour détournement, tu t'en rappelles, de mineurs, a beaucoup aussi entaché la franchise. Et oui, elle n'a jamais aussi rien gagné.
Moi, ça peut jouer, mais je pense pas que ça soit vraiment la cause de tout ça.
Non.
Je pense que c'est plus.
Ouais.
Il y a des franchises qui sont plus ou moins connues. Par exemple, à l'Ouest, les Lakers. Là, c'est du classique. Qu'est-ce que je dis ? Boston aussi. Boston, les Celtics de Boston ont une grosse cote aux États-Unis. Utah Jazz, c'est pas vraiment ça. C'est pas la même chose. Et je pense que c'est culturel, c'est historique. Ouais. En dehors des performances sportives, c'est dans les mentalités. Donc c'est normal.
Ouais. Le coach Otolet, peut-être. Oui, d'autres clubs.
J'avais posé à
Valentin.
Parce que là, j'apprends, moi, au
avec.
Avec
ces clubs.
En fait, justement, Utah Jazz, c'est quoi ? C'est parce que c'est un club qui vient récemment d'émerger au plus haut niveau.
Bon, il y en a qui le comparaient. J'avais vu ça sur la Twittosphère. Il y en a qui le comparaient à Bordeaux. Non, carrément.
Ou à City, peut-être.
Non. Il y en a qui comparaient à Bordeaux. Le club.
C'est une franchise qui existe déjà depuis longtemps.
Ouais, ça fait longtemps.
C'est pas un problème de. Si ça existe depuis longtemps ou pas, c'est plus
non, ça dis, va.
C'est quelque chose de culturel. C'est un petit état, c'est pas.
C'est un peu comme les Girondins de Bordeaux en France.
Il y en a qui comparaient à Bordeaux.
Quand, notamment à Chamond-Delmas, quand Bordeaux jouait le titre. Par contre, quand t'avais un Bordeaux moyen, t'avais un stade à moitié vide.
Mais quand je disais ça, tout à l'heure, par exemple, quand je disais les Lakers, c'est parce que c'est à l'Ouest, c'est parce que c'est dans un endroit géographiquement où il se passe plein de choses, où il y a des stars, où t'as envie d'aller là-bas. L'Utah, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il y a ça qui joue aussi. Donc,
c'est
toutes ces choses-là qui jouent.
C'est ça.
Ouais.
D'autres activités.
Ouais.
Il y a ça, mais il y a tellement de vecteurs. Mais je pense que c'est culturel et historique, en fait. C'est en dehors des performances sportives, parce que si une franchise joue bien une saison, alors qu'elle n'est pas forcément connue de base, évidemment que on va s'y intéresser. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais ils auront jamais la même cote.
Est-ce que sur la durée, est-ce que tu les vois, toi, justement, sur la durée et de performance? Est-ce qu'ils en ont les moyens?
Il y a un vrai projet, parce que déjà, on a signé un contrat XXL, pas moi.
Hein. Ah, tu fais partie.
Il fait partie. Vas-y, laisse-le terminer avant la pause.
Rudy Gobert a signé un contrat XXL en NBA, donc ça veut tout dire de l'investissement à long terme pour ce joueur, qui est un des meilleurs pivots de NBA. Et puis Donovan Mitchell, qui est une étoile montante aussi.
Oui,
donc je pense que il y a un projet autour de ces deux joueurs. Et après, il y a les accompagnements derrière. Donc, je pense sur les années qui suivent, en tout cas. Mais en NBA, c'est vraiment en dents de scie. Hein. Tu peux, d'une année ou d'une autre, faire de mauvaises performances.
Pas mal de réactions concernant cette info sur Utah Jazz. Et aussi Yanis, qui était à peu près d'accord avec Valentin. On se retrouve de suite après cette première pause avec Servan Ediar.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie du coach Otolet et de Valentin. N'oubliez pas le numéro du standard pour réagir avec nous, pour parler sport, le 01 53 48 3000. Mais cette fois-ci, on va s'attarder sur le cas de notre invité de ce soir.
Time Sport.
Nous accueillons pour la première fois Servan Ediar, qui a sorti un magnifique livre, Le sport, ma prison sans barreaux, édition Bold, et non pas Gold. Bonsoir Servan.
Bonsoir Bilal.
Comment allez-vous ?
Ça va ma foi.
C'est super. Servan, justement, on va un peu parler de sport et parce qu'on le sait que le sport est bon pour la santé, forcément. C'est ainsi qu'il est perçu, on va dire, un peu par tout le monde. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui reste assez positif. Pourtant, il peut devenir une drogue aussi, redoutable et addictive. Sur des personnes. Et il devient alors bigorexie. C'est une maladie reconnue officiellement par l'OMS depuis 2011. Mais comment on en arrive à ce point-là, Servan ?
Comme un drogué qui commencerait, ou comme un fumeur qui commencerait par prendre une cigarette et puis qui après se dit qu'une, ça suffit pas, il va en prendre deux, trois Et après, c'est le corps et la tête qui en ont besoin, toujours de plus en plus et tous les jours.
Ouais. Mais en dehors
alors,
des,
alors on a Valentin qui veut réagir aussi. On avait Valentin
des,
et le coach Attelé.
Du risque de blessure, c'est-à-dire avec la répétition des efforts, il y a quoi comme conséquence négative?
Il y a l'aspect social aussi, parce que à force de faire tellement de sport, vous ne voyez plus personne, ou du moins vous voyez plus que les gens qui font du sport avec vous. La famille peut en pâtir aussi beaucoup.
Ah, carrément.
Ouais. Ah ouais.
Justement, le sport, ça doit nous lier. C'est des retrouvailles pour certaines personnes. Par exemple, aller faire son footing dans un parc ou même découvrir un groupe de personnes avec qui on pourrait faire, je sais pas, la salle de muscu. Bon, là, avec la crise sanitaire, on va en arriver aussi sur cette période qui est assez dramatique pour pas mal de monde. Mais comment, se dire qu'on est coupé de liens sociaux avec avec le monde, quoi, et se retrouver.
Vous restez dans un microcosme. Le microcosme sportif, mais vous n'allez pas, si vous avez le choix entre aller faire une séance, enfin aller au cinéma avec des copains ou aller faire 2 heures de vélo, vous allez prendre 2 heures de vélo parce que vous avez trop besoin de faire le sport.
Ouais. Mais justement, moi j'ai un exemple parce que cet après-midi, c'est un hasard en plus.
Ouais.
J'en parlais avec mon père qui a un de ses amis qui est dans ce cas-là.
Ah oui, carrément.
Et en fait, lui, il a toujours ce besoin de courir. Ça a commencé par le vélo.
Ouais.
Et après, ça s'est développé en course. Et on va dire que s'il a pas sa dose de entre 50 km et 100 km par jour, il est pas bien. Et je comprends en fait quand vous avez dit par rapport au planning, c'est qu'en fait il met des choses de côté, que ce soit professionnel ou familial, et juste pour courir en fait. Après je dis juste pour courir, c'est important pour lui, mais du coup ça devient une drogue. Et il y a l'aspect physique, risque de blessure, et aussi au niveau de l'emploi du temps, tout simplement.
Ouais, justement. Oui. Ouais.
Alors moi j'ai pas parlé de travail parce que moi mon activité professionnelle n'en a jamais pâti. Mais il y a effectivement des gens qui sont obligés de démissionner parce qu'ils remplacent les heures qu'ils devraient donner au travail par des heures de sport.
Oui, Servane. Justement, ce livre, je le répète, qu'on peut retrouver aux éditions Bol dans tous les points de vente habituels, Le sport, ma prison, son barreau. Il interpelle ce titre-là. Pourquoi donc?
Parce qu'on a l'impression que je suis libre d'aller faire du vélo, de l'aviron, de la course à pied, de la marche. Et en fait, c'est pas une vraie liberté puisque j'en ai besoin.
Ouais.
Donc quelque part il m'en fait, et c'est aussi un enfermement par rapport à l'aspect social qu'on évoquait à l'instant.
Ouais.
Je m'enferme quand même dans un monde de sportifs.
Ah vrai. Oui, le coach Attelé, réaction. Bonsoir. Bonsoir, avec Servane.
Justement, elle intervient où la limite?
C'est ça.
À quel moment on a le sentiment on se rend peut-être pas compte, de basculer, justement?
Il n'y a pas de bascule, c'est très très progressif. Après, il y a des signaux d'alerte qu'on commence à voir et qu'on ne veut pas voir. Et moi, je pense principalement aux comportements dangereux.
Quel type de signaux, justement?
Pardon?
Quel type, justement, de signaux qu'on ne veut pas voir?
Par exemple, quand on est très fatigué et on sait que si on va faire 1 heure de sport, là, c'est dangereux. Moi, je roule tôt le matin, donc il m'est arrivé d'aller faire du vélo alors que j'étais hyper fatiguée. Donc rouler de nuit quand on est hyper fatigué avec les voitures, voir la pluie, là c'est terriblement dangereux.
Ouais, ça peut être.
Mais on se dit on en a trop besoin, on va y aller quand même.
Ouais.
Il y a à la fois cet aspect-là et l'autre aspect, c'est de se dire oui, mais si j'y vais pas, je suis une mauviette. Enfin, quand même, je peux y aller, c'est pas parce que je suis un peu fatiguée.
Ouais, c'est un peu un duel. Avec soi-même. On a Nassera et aussi Youssef qui nous demandent est-ce que à travers ce livre, c'est un peu, je vais pas dire un mémoire, mais un réel témoignage de votre de votre vie, quoi.
Mmh. Oui. Oui. J'ai retracé ma vie depuis la petite enfance où je faisais déjà beaucoup de sport. Et comment j'ai augmenté ma dose. Il n'y a pas d'autre mot, petit à petit. Mais c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de bascule. On ne dit pas, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres drogues, pour la.
Ouais.
puisque heureusement je pratique que le sport comme drogue, ce qui est déjà beaucoup.
Ouais. Justement, Servane, si je peux me permettre, on a pas mal de réactions et en fait on nous dit que oui, mais ça reste une bonne drogue. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Une bonne drogue, en fait, c'est du sport, quoi. Et le sport, ça fait sourire. Et le sport, ça divertit. Et le sport, ça fait sortir. C'est plutôt dans cet état-là, quoi. Vous répondez quoi à ces gens-là?
Ça devient dangereux parce que ça dépasse le stade du bienfait puisqu'on le fait dans des conditions dangereuses comme celle que je viens de vous évoquer. Je suis désolée, je reprends l'exemple du vélo parce que c'est ce que je fais le plus, mais sortir en vélo quand on sait pertinemment qu'il y a des risques de verglas, là c'est pas bon pour la santé. C'est pas effectivement, il y a des gens qui vont vous dire ouais, c'est courageux, tu sors quand même. Non, il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme un comportement dangereux.
Ouais. Valentin, on poursuit.
Justement, quelles sont les façons, les mécanismes d'arrêter ce comportement de drogue?
Ben moi, ça a été très clair, ça a été des accidents. J'ai eu 3 accidents graves de vélo. Et plus l'âge qui fait quand même, quand on commence à prendre des années, on se remet moins vite des accidents. Et puis,
c'est à partir du moment où il se passe certaines choses négatives, ouais, certains obstacles, qu'on prend conscience que...
Oui.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour... Ouais. Que les gens, ils arrêtent, ils prennent conscience. Je parle des sports addicts, mais également de l'entourage, parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui côtoient des sports addicts sans savoir que c'est un sport addict, parce que justement, ils vont le voir aller courir alors qu'il a mal au genou, et ils vont dire « Ouais, il est super courageux ». Mais non, c'est pas du courage, c'est de la connerie. Pardon, mais... voilà, quoi.
On
est d'accord, ouais. Servane,
c'est un vrai sujet.
L'entend,
hein.
Comme on l'entend souvent, qu'il alors. Faut... qu'il faut écouter son corps.
Ouais.
C'est vrai qu'on parle, on communique pas assez, et ça, je vous rejoins sur l'aspect de la récupération. On a souvent tendance à entendre des personnes qui sont amenées justement à exercer une activité sportive.
Et toi, justement, tu donnes des cours. Tu es un coach sportif.
Exactement.
Oui, il coach professionnellement.
Exactement. Et malheureusement, on ne parle pas de la fatigue, de la récupération, qui est aussi, voire même plus important que la pratique.
Bah regardez, dans le Tour de France, la journée de récupération, elle est pas si, enfin ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a instauré. Hein.
Ouais. C'est vrai. Il y a eu pas mal de. Ouais, au début, on s'est dit qu'il fallait les laisser au repos, mais non, ça s'est pas fait. Je crois que. Oui, le coach de Tully, je crois que tu veux. Oui.
J'ai une nouvelle question. Justement.
Alors, nouvelle question pour Servane.
Oui. Justement, quel profil de personne est susceptible de tomber dans ce type de comportement?
Malheureusement, oui.
Pour moi, il y a forcément des failles à la base, psychologiques ou. Pour parler de l'exemple que je connais le mieux, celui des femmes, c'est souvent une histoire d'anorexie, de corps. Ça va avec le problème alimentaire.
D'accord.
Pour les hommes, je peux pas vraiment répondre, je sais pas. Enfin, les hommes, il y a aussi le culte du corps, parce que moi, je fais que des sports d'extérieur, mais on a aussi des sports addicts. Vous parliez des salles de musculation, par exemple.
Bien sûr.
On en trouve beaucoup. Dans les triathlètes... C'est aussi quelque part une culture du corps.
Hein. Oui, je vais poursuivre la question de notre coach Tollet, Servane. Est-ce qu'on retrouve peut-être beaucoup plus de femmes qui ont cette pathologie que d'hommes? Vous en savez. Oui.
Non.
Vous n'avez pas l'info. Oui.
Non, le seul chiffre que j'ai pour avoir trouvé à plusieurs endroits, c'est qu'il y aurait 15% de sportifs amateurs qui seraient bigorexiques.
Oui.
Ce qui me paraît énorme, mais. On a très peu, en fait, comme c'est une pathologie qui a été découverte très tard,
bien sûr.
On a très très peu d'études qui ont été menées dessus, très peu de chiffres.
Ouais.
Et moi, dans mon entourage, par exemple, j'ai autant de femmes que d'hommes sporadiques.
Qui sont tombés dans cela. Ouais. C'est tout un processus destructeur, si je peux me permettre, et comme vous le racontez si bien, dans ce livre, on le rappelle, hein, le titre « Le sport, ma prison sans barreau », c'est bien ça, hein?
Oui.
Oui, Servane. Une réaction avec... Oui. Alors, Valentin, parce qu'on a pas mal de questions, Servane.
C'est
hein.
son anniversaire, Valentin.
Oui, alors, Valentin, c'est son anniversaire en plus.
Justement,
ah, bon anniversaire.
Merci, voilà. Merci. Justement, pour arrêter, est-ce qu'il y a, par exemple, le moyen de changer de sport, un sport peut-être moins addictif? Est-ce que c'est une solution, ça, par exemple?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Ça fait partie des choses, effectivement, qu'on propose de diversifier les sports. Moi, je pense que peut-être la seule manière, si on veut rester dans le sport, c'est de faire un sport encadré.
Ouais.
Je prends l'exemple de l'aviron. Je pourrais en faire beaucoup plus. J'adorerais en faire plus. Sauf que c'est dans un club. On est limité en temps.
Bien sûr.
Donc ça, par exemple, une fois qu'on a fait, j'ai fait ma séance du week-end,
voilà.
Je peux en refaire d'autres. Après, je crois qu'il y en a un du plateau qui est coach.
Oui, c'est ça, c'est le coach de Tolé, il est là.
Prendre un coach, je pense que le coach, il va vous limiter.
C'est ça, il va vous dire, oui, peut-être qu'il va vous faire un planning, c'est vrai.
Non, mais elle a raison, c'est important d'être encadré. Ouais. C'est vrai que souvent, j'entends des personnes qui sont amenées à pratiquer une activité et je les entends dire, par exemple, je suis parti à la salle... du lundi au vendredi, je suis allé à la salle et moi je leur dis mais faut récupérer, faut couper.
Bien sûr.
Et ils nous disent non mais j'en ai besoin et c'est vrai que.
Et ils s'oublient. Et Servane le dit si bien.
Il y a un point important qu'elle a signalé, c'est je pense que ça va au-delà en fait du sport. Je pense qu'il y a un vrai problème en général psychologique de confiance ou d'autres pathologies qui font que on essaie de compenser à mon avis cette pratique sportive et ça cache en général d'autres soucis qu'il faut dans un premier temps résoudre, mais bon voilà, c'est pas évident.
On le rappelle justement Servane Audiard qui est avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions de l'équipe de Tam Sport. On le rappelle, ce magnifique livre Le sport ma prison sans barreaux aux éditions Bold. Justement, un petit clin d'œil aussi à Nadège, voilà, qui se reconnaîtra aux éditions Amphora.
À l'écoute.
Ah ben voilà, un petit clin d'œil à Nadège, c'est fait. Oui, de quoi tu te
dis. Elle m'a mis la pression.
Ah, la pression. Sans pression sur l'antenne de Beurre FM.
Non, ça s'est très bien passé.
Oui, de quoi tu te dis. Alors,
vraiment, félicitations à vous parce que c'est un sujet qui est pour moi qui est tabou, dont on ne parle pas et qui est extrêmement important pour moi. C'est aussi
il fallait en parler.
Que la pratique en elle-même, on met en avant le sport, les pratiques, mais on ne parle pas justement de la récupération,
on est d'accord.
Il y a tout un travail à faire en amont, en profondeur, donc bravo.
Un grand merci. Merci à vous, Servane Audiard, on le rappelle.
Merci à toute l'équipe.
Merci, mais vraiment. Merci à vous. On le rappelle, ce livre, Le sport, ma prison sans barreaux, aux éditions Bold, que vous pouvez vous procurer sur Internet et aussi dans tous les points de vente habituels. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On reste avec le coach Tolé et aussi notre Valentin. On reviendra sur l'Atlético de Madrid et sans oublier aussi Manchester City. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport jusqu'à 20h en compagnie de Valentin et du coach Tolé. Allez, on va s'attarder sur ce club qui est l'Atlético de Madrid.
Time Sport, la victoire.
Eh ben, on verra justement s'il y aura victoire ce soir entre les Colchoneros qui se déplacent du côté de Chelsea, 21h. Ne l'oubliez pas. Eh oui, 8e de finale. Retour justement Diego Simeone et ses hommes, Valentin.
Et justement, avant de parler de ça, je voulais te dire, il y a 3-0 pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France.
La Coupe de France, faut pas l'oublier. Donc, un petit fil rouge là, de la soirée avec le PSG.
Avec doublé d'Mbappé et un but d'Icardi. Voilà, c'était une petite aparté
Alors,
sur ce match.
Diego Simeone et la Champions League.
Sur l'Atlético, ce soir, pour moi, ça va être compliqué parce que le Chelsea de Tourelle, pour moi, ça fait 12 matchs déjà qu'ils ont pas perdu, tout simplement.
Il est là, Tourelle.
Il encaisse à peu près 2 tirs cadrés par match.
Il l'a pas vu arriver, hein.
Cette équipe qui encaisse 2 tirs cadrés par match, c'est quand même très très peu. Et donc je pense que Tourelle prend Simeone à son propre jeu, tout ce qui est enfin les clés défensives. Et donc on l'a bien vu au match aller et au match retour. Je pense qu'on est susceptible de voir le même scénario. Alors bon, si c'est pas le cas, je vais me faire taper, mais non. Ouais, je prends les devants.
On va voir. Mais l'Atlético peut-être devra s'il y a élimination.
Se concentrer sur le championnat.
Ouais, le championnat, la Liga, le coach Tolé.
Ouais. Non, mais ils ont pas pris 4 buts. C'est-à-dire que tout est encore jouable.
Ouais, c'est pas comme le Paris Saint-Germain face au Barça.
J'entends dire que va falloir se concentrer sur le championnat. On n'est pas en Ligue 1 à choisir nos compétitions. Là, on part de l'Atlético de Madrid, qui est le numéro 3 derrière le Real et le FC Barcelone. Zidane, l'Atlético s'est incliné certes 1-0, mais tout à fait capable, même si ça va être difficile, de renverser la vapeur du côté de Londres. Donc après, tout est possible. Ils vont jouer leur va-tout. Ça va être un match équilibré. Ça va jouer à pas grand-chose. Et l'Atlético le montre en Liga, même s'ils sont un petit peu moins bien, mais ils sont leaders. Ils ont cette capacité là, être et cette chance d'être certainement champion. Non, ils vont jouer leur va-tout là. Et c'est...
Non, mais moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils vont tout donner parce qu'ils ont l'ADN Ligue des Champions. Depuis quelques années, l'Atlético en Ligue des Champions, c'est quand même, ça fait partie de leur ADN. Donc moi je pense qu'ils vont pas, ils vont pas se cacher. Ça c'est clair. On est en Ligue des Champions, comme tu dis, on n'est pas en train de parler de ouais. Ligue 1, de club de Ligue 1. Mais moi je pense tactiquement sur l'ensemble, sur ce que j'ai vu au match aller. Alors certes, Chelsea n'a pas dominé le match. Je pense que c'est deux équipes qui proposent peu de choses en termes, enfin tout ce qui est offensif. Donc je m'attends pas à un match exceptionnel ce soir. Et donc ça va être très très tactique. Et ouais. On aura deux buts devant le but.
El Presidente, Kamel Aydkara nous écoute ce soir. Et il est parfaitement d'accord. Oui, on salue avec les propos de nos consultants, justement, l'Atlético de Madrid. Thomas Tuchel, qu'on n'aimerait pas revoir du côté de la capitale. Bon, je parle en la personne de certains supporters
du
Paris Saint-Germain. J'ai rien contre lui.
Jamais entendu un coach aussi critiqué allant en finale d'une Coupe européenne.
C'est dommage. Bon,
mais c'est un truc de fou. Il n'y a qu'en France qu'on peut entendre ça. C'est un truc de fou.
Valentin, avant de s'attarder sur les citizens.
C'est peut-être lié à la France, mais... Je pense que Tuchel il ressort pas quelque chose de
charismatique.
Et je pense que par exemple aux médias, tu vois sa relation avec les médias, il a pas la même relation qu'avec que le club
d'accord.
avec
les médias. On s'en fout un moment. Avoir un mec qui est charismatique mais qui finit 14e, on fait quoi?
S'il avait une bonne relation avec les médias, il serait en une du journal
s'en fout.
Plus souvent.
Il a emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions, même si c'était Ligue des Champions. Mais c'est comme on peut la définir comme on veut, mais il a quasiment tout gagné.
Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il doit avoir de la reconnaissance.
C'est 16e du championnat.
Mais moi, je pense qu'il doit avoir de la reconnaissance. Je suis grave d'accord avec toi. Mais je pense que les causes, c'est aussi le jeu qui a été proposé, parce que je pense que, par exemple, Didier Deschamps. Il y a quand même eu des critiques, même à l'international, sur la production de jeu de son équipe de France. Donc,
il est toujours critiqué, Didier Deschamps, et encore.
C'est aussi la production de jeu d'une équipe qui se joue aussi.
Je suis d'accord.
Intéressant.
Mais c'est vrai. Mais après, on te demande de gagner des titres. Regarde, comme tu l'as dit, Tourelle a fait du bon travail à Dortmund. Pour moi, il a fait du bon travail au PSG, même si je pense que l'entraîneur, malheureusement, n'a pas la main mise aussi au sein de l'institution parisienne. Et puis là, il est en train de confirmer à Chelsea. Donc,
Pour moi, avec une toute autre vision du foot, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, son Chelsea ressemble pas du tout au Paris Saint-Germain de Tourelle. Après, c'est pas les mêmes joueurs, évidemment, donc ça varie beaucoup. Mais en général, l'entraîneur, il vient quand même avec sa propre philosophie.
Ouais,
et il s'adapte.
Mais tu t'adaptes quand même aussi après à l'effectif que t'as une énergie, t'as une atmosphère aussi.
C'est quand même complètement différent, je trouve. Franchement, c'est complètement différent. Le Paris Saint-Germain enchaînait pas les clean sheets comme ça. Il mettait pas des 1-0 tout serré comme ça. Après, c'est bien, il gagne des matchs. Chelsea, mais c'est pas du tout la même philosophie que le PSG.
C'est vrai.
La dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, justement, on va revenir sur Manchester City. À une époque, on avait un auditeur qui nous disait qu'il fallait jouer avec le Barcelone, avec trois numéros 10, on s'en souvient, Adier, eh ben on lui passe le bonsoir. Parce que quand même, il n'avait pas tort sur deux, trois remarques, il n'avait pas tort, cet auditeur de Beurre FM. Manchester City, hier, il y a eu le match face à Mönchengladbach, les Allemands, 2-0, on le rappelle, à la 12e, Kevin De Bruyne, l'international belge, et sans oublier aussi Gundogan, à la 18e, 2-0, ça va fort. Et très très vite, les Citizens.
Ouais, ça va fort et très très vite. Maintenant, faut faire quand même attention, parce qu'il y a d'autres saisons où on a vu City extrêmement performant. En première ligue, performance sur les matchs de poule et jusqu'au quart de finale et patatras, tu te retrouvais face à une équipe qui était capable de te faire déjouer et bim, City éliminé. Maintenant, c'est vrai que quand on voit cette équipe de City depuis le mois de novembre, waouh, c'est un rouleau compresseur, c'est impressionnant. Il a eu cette capacité Guardiola de changer, de modifier son style de jeu. Il y a des joueurs qui reviennent de nulle part, qu'on pense à la cave, Gundogan et autres.
Ouais.
Ça reste quand même impressionnant. Maintenant, moi, je serais curieux quand même de voir City face une grosse cylindrée et de voir comment il serait capable de résoudre ça.
Ah ouais, City pas prêt pour toi encore.
Non, mais faut être patient. C'est bien, ils sont en quart de finale. Au vu de ce qu'ils montrent, il y a rien à dire. C'est vrai que si t'as envie d'arrêter la compétition là, tu te dis bon bah, t'aurais presque envie de donner le titre à City, mais la Coupe d'Europe, c'est pas ça. C'est pas ça, et malheureusement, City jusqu'à présent échoue à ce stade de la compétition. Donc, prudence.
On a Mourad qui nous dit City, Valentin, a renforcé sa défense. Et oui, le coach Tolé. Donc, plus de garanties.
Ouais, ils ont tout renforcé en vrai, parce que tu disais il a changé sa philosophie, mais moi je pense qu'il a retrouvé sa philosophie plutôt. Il l'avait perdu en cours de route, et je pense que c'est surtout comme tous les gros clubs, comme tous les petits clubs, c'est le rythme des matchs, c'est l'intersaison qui a été très très courte. Et le fait aussi de voilà, il fallait quelques semaines, quelques mois pour reprendre un peu ses repères, on voit beaucoup de changements novateurs. On voit que même des grosses têtes de City sont parfois mis de côté, mis sur le banc. Donc il y a beaucoup de concessions qui sont faites, et tactiquement c'est remarquable, toujours le surnombre au milieu, et c'est un récital, c'est toujours un plaisir de voir Manchester City jouer. Là hier tu disais Bilal que Gundogan avait marqué à la 18e.
Ouais.
Si on regarde bien, quand Foden décroche, il se met entre les deux milieux de terrain. C'est la polyvalence de chaque joueur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ailier qui se retrouve latéral gauche, c'est ça qui est incroyable, tout en compensant tout le temps les espaces à chaque fois. Donc voilà, c'est une poésie. C'est quand même impressionnant de voir ce Manchester City jouer. Après, tu parlais de la Ligue des Champions, qui pour moi, par rapport au championnat, est complètement différent. Là, au championnat, ils sont à 71 points. Voilà, on sait qu'ils vont gagner le championnat.
Droit, hein.
Donc là, c'est son anniversaire. Hein, il nous fait une masterclass. Tu peux nous en faire tous les soirs des comme ça, hein, Valentin. Hein. C'est assez intéressant.
Mais contre les grosses équipes, on l'a vu. Liverpool en première ligue, y a pas de souci. Mais t'as raison sur la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a une barrière psychologique plus, parce que en termes de performance, je pense que City a quand même les capacités pour être performant et aller au bout, comme le Paris Saint-Germain, c'était le cas. Alors, au niveau psychologique, parce que depuis 2016, depuis Guardiola est arrivé, ils n'ont pas passé les huitièmes. Donc
on va prendre un auditeur du côté du Standard et une petite réaction encore une fois. Il a hésité, mais il a fait. Mourad, c'est après Gundogan. S'il est ton meilleur buteur, ça peut être aussi inquiétant. Ossine, allez, un fervent auditeur des émissions de Beurre FM qui est avec nous ce soir. Il a composé le 01 53 48 3000. Ossine, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Valentin, joyeux anniversaire.
Merci.
De Tolé, je te remercie, tu parles bien.
Voilà,
merci bien aussi.
Mais arrête de t'énerver, quand même. Tu vas faire peur à tous les auditeurs.
C'est l'émotion, excusez-moi.
Non, je voulais intervenir, vous m'avez donné la parole, je voulais intervenir par rapport à Manchester City. Manchester City, faut pas oublier que la dernière C1 qu'ils ont joué, ils se sont fait cartonner par Lyon. Donc moi je trouve qu'arriver à un moment donné dans les quarts de finale, il faut vraiment faire attention, parce que toutes les équipes se valent.
Ouais.
Et offensivement et défensivement, ça joue, donc pas droit à l'erreur. Juste un petit bémol de la
part
de Guardiola. Moi je trouve que Riyad Mahrez, c'est la lumière de ce club. C'est la lumière de cette équipe, mais il ne l'exploite pas comme il se doit. Il met en valeur d'autres joueurs. Bon, après, je ne vais pas remettre en cause sa manière de procéder, puisqu'il a fait ses preuves. Mais à mon sens, je trouve que Riyad Mahrez, c'est une personne qui débloque la situation. Quand on ne s'y attend pas.
Ouais.
Et il faudra faire attention, parce que là, maintenant, par rapport à ces clubs-là qui sont toujours en lise par rapport à la Champions League, c'est des grosses cylindrées.
Mais oui. Donc, il y a toujours le Paris Saint-Germain aussi.
Exactement.
Ça serait pas mal.
D'autant plus que il a un banc exceptionnel, Guardiola.
Il le dit.
Mais tu disais par
portefeuille aussi exceptionnel. Ossine, on a une réaction de Valentin.
Tu disais par rapport à Mahrez, moi je trouve c'est bien de mettre en avant Mahrez, parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais je pense qu'en termes de collectif, Guardiola, il fait ses choix pour que son équipe soit efficace. Et je pense qu'en termes de régularité, de continuité, il n'a pas trouvé en Mahrez quelque chose de fiable pour le collectif. Je pense qu'il joue des matchs, il est performant, il met des buts, il met des passes décisives, c'est bien. Mais je pense qu'il y a une raison s'il n'est pas sur le terrain régulièrement.
D'accord. Non, moi, je critique pas ce que fait Guardiola. Je le répète encore. Il a énormément de joueurs. Il peut faire deux équipes, hein, sur pratiquement toutes les grandes équipes. On peut faire deux équipes avec leur banc. C'est exceptionnel, les joueurs qu'ils ont. Après, voilà, c'est un schéma tactique qui se reproduit à chaque fois. Il faut faire attention de pas faire la même erreur. Parce que là, maintenant, tu accèdes au quart de finale et tu joues pas contre n'importe qui. Tu joues contre des équipes qui t'attendent, quoi, au tournant.
Ouais.
Voilà quoi.
Le coach de Toulé a raison, tu joues contre des équipes qui ont des institutions, qui ont une vraie identité de jeu, de club, qui ont cette culture de la gagne, qui ont l'habitude d'être à ce stade de la compétition, et ça se joue à rien. Alors c'est vrai que ils ont ce jeu léché, cette identité là que Guardiola a instauré déjà au Barça, on l'a vu, et maintenant à City, mais là quand tu arrives à ce stade de la compétition, je suis d'accord avec Lucine, c'est autre chose, attention.
Ouais. Yvan et la Serra d'accord avec toi, le coach Tollet. Oui, juste réaction. Juste, allez-y, Hussein.
Oui, juste, c'est vrai que par rapport au championnat de Première Ligue, il le survole, là, le championnat, c'est clair, net et précis. Par contre, l'équipe en elle-même, il y a rien à redire. Hein. Je veux dire, il faut maintenant psychologiquement et mentalement, il faut qu'ils soient prêts. Parce que voilà, les autres équipes, elles sont prêtes et il faut pas faire d'erreur à ce moment-là parce que ça paye cher, quoi.
Ah ouais. Voilà. Mais ça fait effet. Il est bon.
Il est bon aussi.
Il est pas mal, l'auditeur de Beurre FM, qui est Hussein, qui compose à chaque fois. Merci Hussein. Merci à vous Hussein. Et qui a fait le 0153483000. Et oui, pour réagir, notamment dans cette émission, dans l'émission même de Didier Kim, notre Canary, ou encore Vanessa, seconde partie de soirée, 22h, voilà.
Didier Kim qui a les cheveux qui repoussent depuis dimanche.
C'est pas mal. Eh oui.
Supporter de Nantes.
Victorieux face au Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Mais gare aux Canaries, parce que Paris est là, Paris est grand, Paris est un très bon club avec aussi un bel effectif. Ça faut le rappeler, le coach Tollet.
C'est le plus grand club français.
Eh oui, c'est ça. Grand club français, comme tu le dis.
Actuellement, c'est le plus grand club français.
On va nous sortir maintenant l'histoire de l'étoile. Mais ça, c'est notre histoire.
J'ai le PSG, le plus grand club français, avoir gagné la Coupe des Coupes.
Paris est grand.
Coupe qui n'existe plus.
Ouais, mais qui va ressusciter peut-être?
Un autre nom, ouais. Europa Conférence, ouais. Donc là, on part du sixième des championnats, etc. Enfin, oui. C'est un peu le remake de la Coupe des Coupes qu'on a connu.
C'est ça. Un grand merci au coach Tollet d'avoir été avec nous et avec toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, sans oublier aussi Valentin, encore un joyeux et bel anniversaire.
Merci.
Merci à Yanis, à la réalisation, sans oublier le rédacteur en chef de cette émission, Jouba Houchen, le community manager, Farid Rouas, mais aussi, on n'oublie pas un certain Abdel, Viknesh, Mohamed et encore
Jean-Louis.
On aime bien Jean-Louis aussi. On passera le bonjour à Jean-Louis et à Roger aussi, du côté des Vosges.
C'est ça, exactement.
Allez, sans oublier aussi Zarine et Anna, justement, qui a rendu visite à Yanis et au coach Tollet. Nous, on se retrouve dès demain, à partir de 19h et la suite des programmes avec Café des Artistes et Morad.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.